Il y a une place encore.
On peut commencer, moi je continue.
Oh, d'accord. Il y a encore une place. Il y a une place à côté de vous? Il y a deux places. Il y a encore une place là. Bien, bonsoir. Merci d'avoir répondu si nombreux à l'appel de cette conférence dont le thème, visiblement, a sollicité beaucoup d'envie, puisqu'on a dû refuser, malheureusement, des places et que plusieurs écoles d'art de région nous ont demandé si la conférence pouvait être diffusé en direct. Bon, vous voyez, donc c'est un thème qui passionne les foules. Ce thème, donc le numérique dans les métiers d'art, la main et le code, qui est la quatrième conférence du cycle que l'Institut national des métiers d'art, dont je suis le directeur scientifique et culturel, dont Gérard Descamps, ici présent, est le président et dont Marie-Hélène Frémont est la directrice générale, organise, donc l'INA organise ces rendez-vous un peu. Qu'on veut le plus convivial et le plus semé d'échanges possible autour des métiers d'art et des questions qui traversent la profession. Je voulais commencer par presque une page de publicité. Je vais demander à Muriel de bien vouloir lancer les 2 minutes d'image.
À partir du moment où on utilise les derniers outils, les dernières technologies, on est de fait innovant. L'innovation, pour moi, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. On traite les projets au fur et à mesure où ils arrivent, au fur et à mesure des opportunités. Donc on ne sait pas ce qu'on fera demain, mais ce qu'on sait, c'est qu'à chaque fois, on est obligé de réinventer un système, un programme, un produit, une matière, une lumière, une texture. Et c'est ça qui nous fait avancer.
Je vais essayer de pousser la technique un maximum en mélangeant des procédés donc qui vont être le tissage, un procédé qu'on connaît, avec des procédés plus modernes, plus contemporains, comme la découpe laser.
C'est de mettre en contraste ces nouvelles technologies qu'on pourrait dire froides avec la matière, le grain et un rapport beaucoup plus poétique en fait. C'est pas forcément une révolution dans la manière de créer parce que je tiens à conserver le lien au lieu physique de l'atelier de fabrication, le lien à la matière tangible, tactile, charnelle.
Donc l'innovation, c'est travailler avec des matériaux qui ne sont pas forcément textiles au départ, les adapter pour des secteurs très différents qui peuvent aller de la haute couture jusqu'à des secteurs beaucoup plus techniques.
Ouvrir son atelier à d'autres procédés, plaquer du bois sur des impressions 3D, on va coller du bois sur du latex pour avoir les propriétés élastiques de ces matériaux. On peut plaquer du bois sur du métal afin d'imiter les propriétés du métal en ayant l'aspect du bois.
J'avais envie de modifier la réfection classique et les finitions des sièges en ajoutant et en jouant avec le papier.
Mon travail, c'est des mélanges de textiles et des matières polymères. Je souffle en fait les silicones à travers des mailles.
Et ça crée en fait vraiment haut des tissus, haut des objets qui sont toujours inspirés par la nature. Ça évoque en fait des sensations qu'on a envie en fait de toucher, de comprendre qu'est-ce que c'est.
Tout doit être pensé, tout doit être caché, donc, et surtout résistant. Donc, je réalise plus un travail de tissage. Et j'ai décliné mes créations en travaillant sur des luminaires et des panneaux, des paravents.
On a délibérément une démarche hybride, transversale, qui nous donne une identité forcément plurielle, même si on est d'origine rattaché au métier d'art et que je me sens complètement artisan d'art.
Voilà, donc c'était l'apéritif qui vous annonce les Journées européennes des métiers d'art la semaine prochaine, 27, 28 et 29 mars, qui sont l'occasion d'aller voir les ateliers, les professionnels dans leurs ateliers, d'aller rencontrer les centres de formation et d'aller voir les événements, dont trois événements parisiens, un qui aura lieu ici même, l'exposition Mutation, qui sera donc inaugurée et accessible vendredi prochain. Vendredi, samedi, dimanche, gratuitement, Mutation ici aux Arts Déco, qui a pour objectif de réinscrire les métiers d'art dans leur histoire et surtout de faire éclore les objets du futur. Donc cette exposition est partie d'un objet totémique que certains connaissent ici, qui s'appelle le HANAP, H-A-N-A-P. Le HANAP qui a été créé par Lucien Falise en 1800, que je ne dise pas de bêtises, 96, dans cette maison. Et ce HANAP, qui est une coupe, on pourrait dire une coupe en métal précieux, recouverte d'émail, présente 8 faces. Et ces 8 faces sont les matériaux et les supports des métiers d'art. Et c'est la première fois que dans le lexique muséographique français a été introduit le terme métier d'art. Donc, à partir de ce HANAP du 19e, dans la fulgurance des expositions universelles, un certain nombre de collectifs d'artistes, d'artisans, de designers ont recréé 8 objets, plus un HANAP du 21e siècle, pour vous les montrer dans leur rapport aux objets passés, aux objets, j'allais dire, historiques des collections de cette noble maison. Donc je voulais remercier d'ailleurs David Caméo, le directeur général, qui est passé tout à l'heure nous saluer, et Sébastien Kéké qui, avec nous, organise avec talent ces conférences. Donc, Mutation. Deuxième exposition, Palais de Tokyo, l'usage des formes. C'est l'interrogation du rapport de l'outil à la main. Et ce sont encore des collectifs de créateurs professionnels des métiers d'art, artistes, designers, architectes, qui ont créé cette exposition au Palais de Tokyo. Donc, qui, elle, sera accessible à partir d'après-demain, donc un peu en avance. Et la troisième exposition, qui aura lieu au Gobelin, dans le 13e, qui s'intitule « L'esprit et la main ». C'est la première fois que le Mobilier National, qui crée, donc, à travers son atelier de recherche et de création, le mobilier des palais de la République, des ambassades, ouvre ses ateliers et montre ses productions donc dans la galerie des Gobelins à partir de vendredi prochain. Donc ces trois expositions sont gratuites les week-ends des Journées européennes des métiers d'art. Et pour rester dans le thème, dans le 12e arrondissement, puisque les Journées européennes des métiers d'art 2015 s'intitulent Territoire de l'innovation, les ateliers de Paris et sa directrice et leur directrice Françoise Sainz, plus l'Institut national des métiers d'art, organise une présentation aussi d'objets du futur, à la fois au Faubourg Saint-Antoine et puis à l'Institut national des métiers d'art. Un workshop sera organisé le samedi après-midi, entre 13 et 19 heures, et le dimanche après-midi, je crois, Nicolas, je ne sais pas s'il est là, mais vendredi soir aussi, donc ça sera jusqu'à plus d'heures. Donc voilà pour l'actualité. Sur ce soir, le numérique, on pourrait dire plutôt, on a intitulé la conférence La main et le code, mais on pourrait dire plutôt quel est le bon usage du numérique dans le secteur des métiers d'art. Je voulais vous présenter d'abord les intervenants. Jean-Louis Fréchin, qui nous a fait l'amitié de venir ce soir, qui est architecte-designer, je ne sais pas, entre autres, et qui a créé, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, la société No Design, non pas aucun design, design barré, mais nouvel objet du design. Il nous rappelait tout à l'heure qu'il avait dans cette salle aussi reçu un prix des arts décoratifs autour du papier peint il y a quelques années. Laurent Nogue, qui est à côté de Jean-Louis, qui lui est maître d'art, il est, on pourrait dire, graveur en gaufrage. Il a créé aussi un atelier il y a 20 ans maintenant, au Viaduc des Arts, maintenant qui est au Viaduc des Arts, qui s'appelle Créanog. Et il nous montrera tout à l'heure comment il intègre les nouvelles techniques. C'est Jacques Toubon qui me disait faut pas dire nouvelles technologies, il faut dire les nouvelles techniques. Parce que la technologie, c'est le discours sur la technique. Et la technique, c'est la technique. Donc voilà, question de vocabulaire. Donc les nouvelles techniques et... qui est venu avec son élève, Clément Vino-Battistini. Le maître d'art, la spécificité du maître d'art est qu'il a un élève auquel il transmet pendant 3 ans, grâce au ministère de la Culture, son savoir-faire d'exception. Et Stéphane Bondu, qui est joaillier, mais qui est le dernier, le seul fabricant de boîtiers, et notamment... c'est lui qui crée les œufs de Fabergé. Donc il vous montrera comment il intègre aussi ces nouvelles machines dans le procès de production. Alors je voulais aussi souligner la présence d'Alain Cadix parmi nous et le remercier. Alain Cadix qui pilotait la mission design pour les ministères du redressement productif et de la culture et membre du conseil scientifique de l'Institut et pilote un groupe de travail sur, disons, nouvelles techniques et production. Comment les nouvelles technologies interrogent maintenant les productions dans le secteur des métiers d'art. On vient à effacer les frontières entre artisanat et industrie. Donc peut-être qu'au cours des échanges, Alain nous fera part de sa réflexion sur le sujet. Voilà. Je vais rapidement laisser la parole à Jean-Louis Fréchin. Pour nous, l'objectif n'est pas d'hypervaloriser l'introduction des nouvelles techniques dans les processus de création de production, mais de leur trouver leur juste place. Le secteur des métiers d'art est interrogé par ça, parce qu'on produit maintenant avec ces machines imprimantes 3D, machines à commande numérique, laser, des objets extraordinairement fini, voire même personnalisé, à tel point que l'artisan d'art pourrait s'interroger sur la notion de perfection entre ce qui est manufacturé et ce qui est, j'allais dire, numériquement fabriqué. Donc ça, c'est une question qui est posée à l'ensemble des professionnels. Et puis ces machines dont Stéphane Bondu me disait que l'une de celles qu'il avait, que vous verrez, coûtait 2000 euros, ce qui est pour un professionnel alors pas très très cher. On voit dans le cadre du groupe de travail animé par Alain Cadix que le marché de production des imprimantes 3D se développe, que les particuliers en achètent et que dans une séquence de science-fiction, on pourrait dire que chacun, d'ici quelques années, pourra fabriquer ces objets. Parfaitement et même des objets personnalisés. Et ça, forcément, ça interroge le travail et la valeur ajoutée des artisans d'art. Voilà, je ne vais pas être plus long et je vais céder la parole à Jean-Louis Fréchin qui, lui, n'a pas d'image.
Bonsoir. Je suis très content d'être ici pour plusieurs raisons. La première, c'est que volontairement, c'est une première. Effectivement, je fais une conf sans image. et que comme un designer qui est toujours en train de vendre la même soupe, c'est-à-dire le numérique est une opportunité pour notre pays, le fait d'être ici avec vous à partir de ce que sont les métiers d'art, ça change un petit peu, ça change un petit peu la donne. Souvent, quand j'interviens, bon, je suis designer, je fais des choses, on ne me considère pas tellement comme un designer, mais comme un spécialiste du numérique, comme un gars de la technique, avec toujours ce geste assez méprisant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le monde de la création et celui auquel j'appartiens, le design a un problème avec le numérique spécifiquement et avec la technologie en général. En préparant cette conférence, forcément, dans un pays comme la France où les arts appliqués, les métiers d'art, le deuil jamais consommé des meubles du château de Versailles, habite nos esprits, la reproductibilité de ces meubles faits pour des rois, ensuite appliqués à des bourgeois, fait que notre métier, enfin mon métier en tout cas, le design était un métier de combat et de conquête. Et Marius Vachon, dont Arnaud Montebourg est devenu un fan, Marius Vachon, c'est un inspecteur des Beaux-Arts qui a fait une mission qui s'appelait « Rapport sur la crise industrielle en France » et qui pointait le retard de la France, donc ça c'était en 1876 de mémoire, pointait le retard de la France sur l'Angleterre et l'Allemagne, sur l'industrialisation des biens et sur l'incapacité de la France à faire des produits bon marché. Et ce contexte, qui est un contexte extrêmement structurant en France, pointait la prédominance des médias d'art, la considération de ce mode de production au regard de l'industrie. La France n'étant pas un pays industriel à cette époque, contrairement à l'Allemagne et l'Italie. Et cette question était la cause ou la conséquence de ce problème. Alors Marius Vachon a pris deux actions. La première, il a lancé une phrase assez célèbre, si les artistes devenaient des commerçants, alors nous pourrions diffuser à des conditions raisonnables, etc., etc. Il a donc inventé le design, tout simplement. Donc le design, ce n'est pas allemand, ce n'est pas anglais, c'est plutôt cette vision de Marius Vachon. Et il a créé une école d'art industriel, dont aujourd'hui un BTS poursuit l'activité en France dans la gravure de fusils de chasse à Saint-Étienne, hein, et le musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne, où on marie un savoir-faire machinique, des machines, et puis la passementerie, qui est plutôt le terrain de jeu historique de Saint-Étienne. Puis on l'a un petit peu oublié, le retard industriel n'a pas été comblé, le design en France n'a jamais été au centre des problématiques comme il l'est en Allemagne. En Allemagne, vous avez une expression qui dit le Maschinenbau, c'est-à-dire c'est un peu le tout. Quelqu'un qui fait des montres en Allemagne, on ne sait pas s'il est orfèvre ou horloger, il fait des montres. En France, on sait que Cartier, c'est un orfèvre, et on sait que Breguet, quand il était français, c'est un horloger. Et cette fusion entre les deux, c'est tout, finalement, le problème français. Il y a ce qui est beau d'un côté, il y a la manière de faire des choses exceptionnelles d'un côté, l'art bourgeois, et puis il y a ce qu'on fait pour gagner sa vie la semaine. Et cette séparation a un peu, finalement, créé des tensions, et moi j'ai été éduqué dans ce dogme, entre métier d'art et design. Métier d'art, c'est avant, le design, c'est demain. Et en France, demain est important. Et comme on a du mal avec demain en France, les designers sont toujours dans une sorte de revendication absolument forte et puissante. Et j'ai vraiment été élevé comme architecte dans une école communiste UP1 qui a fait 68. Une école communiste en architecture, c'est-à-dire une école classique où on fait tout. Ça ne veut pas dire une école politique. Bien sûr, elle était politique, mais disons, l'enseignement était extrêmement complet. Le seul truc qu'on n'ait pas fait dans cette école, c'est tout ce qui relevait de ces traditions françaises qu'on peut trouver dans le bâtiment. Il y a des métiers d'art qui sont très liés à l'architecture. Tout ça n'était pas enseigné. C'était la chose à bas. Le Bauhaus qui a créé le design était une lutte entre un établissement d'art appliqué et l'école des modernes qui voulait inventer l'esthétique de l'époque. Et ça, effectivement, ça crée des conditions extrêmement particulières. D'un côté, il y a des gens qui pensent, qui représentent la pensée et qui ne savent pas l'exécuter. Et puis le métier d'art, c'est un objet, un homme, un procédé confondu dans un objet dont la première signification historique était une représentation d'une forme de pouvoir ou de richesse, puisque chez nous, hein, c'est l'État qui a fait venir des gens de métier des pays hanséatiques pour amener des savoir-faire pour exprimer la puissance de la royauté. On n'est pas né avec les métiers d'art et les arts appliqués, les arts décoratifs à la française. On les a importés. Donc ça, c'est un contexte. Donc on était plutôt dans un mode de tension. Et l'éducation qui suit derrière est celle-là. Alors il s'est passé quelque chose d'extrêmement intéressant en Italie dans les années 70. C'est que des architectes et des designers italiens ont fait une sorte de deuil de l'industrie comme réponse à tout. Ils avaient compris plein de choses. Ils avaient compris que les procédés et processus industriels allaient dépasser la qualité de l'objet fait à la main. En France, il y a encore ce mythe de l'objet fait à la main, mais ce téléphone de marque américaine, par ailleurs designé par des Français, je regarde Alain, puisqu'il y a trois élèves de l'ENSI chez eux et que Jérémy Bataillou, pour ne pas le nommer, est responsable de 90% du design de ce téléphone. Cet objet a une qualité de production qui est supérieure à tout ce que l'être humain peut faire. Ce qui veut dire que le mythe de c'est fait à la main est plus intéressant que c'est fait industriellement pour des objets de grande diffusion, pour des objets de la vie quotidienne. C'est fini. La machine a gagné. Le procédé réplicable a gagné. Et qu'est-ce que disaient ces architectes italiens, hein, Andrea Branzi, Sottsass, Superstudio, etc. C'est super, l'industrie c'est formidable, mais il n'y a plus d'espace d'expérimentation. L'industrie c'est tout ou rien, c'est un million ou rien. Et ces gens-là se sont tournés vers les artisans italiens. Donc ce que les Italiens appellent les artisans, ça peut être de manière un peu les métiers d'art chez nous. L'atelier de l'artisan comme laboratoire d'une expression plastique et esthétique de l'objet dans une condition d'usage et symbolique. C'est extrêmement intéressant parce que cette approche n'était pas, on va dire, patrimoniale, ce qui est un peu l'approche française, il faut sauver les métiers d'art. Elle est l'avenir et le futur de l'industrie se situent dans cet espace laboratoire que sont les collaborations entre designers et ses artisans en Italie. Alors, l'histoire continue. Et je vais accélérer parce que sinon on va prendre l'année 84 et puis l'année 84 sortie du allez excusez-moi 1981 non c'est pas l'élection de François Mitterrand. C'est la sortie, de l'IBM PC, donc un ordinateur grand public. Un petit peu avant, il y a eu l'Apple II. Bon, bref, 84, la sortie du Macintosh. Et ces machines puissantes, personnelles, deviennent accessibles à tout à chacun. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé d'être un ingénieur pour utiliser un PC familial. On n'est plus obligé de programmer comme sur l'Apple II pour faire des choses, pour faire des dessins 3D. Quand j'ai appris à l'école d'archi l'ordinateur, tu veux faire une perspective, ok, fais le programme. Parce que je vois beaucoup de jeunes dans la salle. Donc le concept d'application, de logiciel, de Word, de Photoshop, d'AutoCAD, de Rhino, n'existait pas. Tu voulais quelque chose, il fallait programmer. La main, le code, on était en plein dedans. Donc tu veux faire une perspective de bâtiment, bah, tu fais le programme, tu le codes. Donc un peu compliqué. Le Mac a réglé deux problèmes. L'idée d'applicatif, c'est-à-dire des logiciels dédiés à une tâche, dessiner, Mac Draw, peindre, Mac Paint, écrire, Mac Write, etc. Et une interface utilisée par tout à chacun. Ce qui est formidable, ça donne du pouvoir aux gens. Mais ça veut dire que tout le monde a ce pouvoir. C'est-à-dire que tout le monde a ce pouvoir. Et le pouvoir, ce n'est pas un simple marteau. Tout le monde peut avoir un marteau comme celui qui va forger le cuivre. Mais un ordinateur, c'est une machine qui donne un super pouvoir. C'est-à-dire, quand vous composez un texte, il peut vous dire, bon, manifestement, tu ne sais pas ce que c'est qu'une approche, je vais la faire pour toi. La manière dont fonctionne InDesign, par exemple, aujourd'hui. Vous n'avez pas à vous poser la question des approches entre les lettres, parce que tous les typographes font quasiment lettre par lettre. Aujourd'hui, c'est fait automatiquement. Donc, tout à coup, tout le monde devient designer à cause de ces machines-là. Donc c'est un vrai problème parce que cette industrialisation de savoir-faire qui était des savoir-faire exceptionnels de composition, de dessin de lettres, etc. devient un peu d'un côté, d'un point de vue humaniste, c'est formidable, chacun y a accès. De l'autre côté, il y a des pertes d'excellence, des pertes de pointe qui sont lissées parce que finalement, c'est des moyennes qu'on crée. En 1995, Internet. Alors là, c'est quelque chose d'encore plus important qui s'est passé, c'est pas le fait qu'on puisse discuter avec Facebook sur ses copains, c'est que notre planète est devenue Facebook. C'est-à-dire un gigantesque réseau distribué, un gigantesque réseau plat, un gigantesque espace des intermédiaires. Il n'y a plus d'organisation, il n'y a plus de corps social, on est tous connectés individu à individu. Ça, ça change tout. On rentre dans ce qu'on appelle la révolution numérique. La révolution numérique, c'est pas une révolution technologique, c'est pas une révolution d'outils technologiques, c'est pas une révolution informatique, c'est un changement d'âge comme la maîtrise de l'énergie avec le pétrole et l'électricité l'ont été au début du XXe siècle, la mobilité, voler, se déplacer, transporter l'énergie rapidement avec l'électricité. Deuxième grande, la première étant l'imprimerie qui a permis à l'information, la connaissance de se déplacer. La troisième, c'est finalement Internet. Donc tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on produit est changé par cette interconnexion, par cette désintermédiation des choses que l'on connaît. Et ça bouleverse tout, c'est un véritable changement d'âge. Alors bien sûr, ça a un impact sur nos vies, c'est clair, sur nos modes de pensée, c'est clair, et sur nos modes de production. Aujourd'hui, on pourrait interconnecter une personne, la machine qui fait ça, qui sont des machines allemandes, qui sont des machines pour faire des avions, des fraiseuses 5 ou 7 axes, un système de logistique, un système de distribution, Amazon par exemple, et fabriquer industriellement un produit unique. Le rêve des Torres Otsas, le rêve des Italiens dans les 70 qui condamnaient les modèles de l'industrie qui produisaient que de la masse et que de l'unique. Aujourd'hui, on sait le faire technologiquement. On a fait pour Sculteo des tasses avec ce qu'on appelle des data humaines, c'est-à-dire des paramètres uniques d'une personne, son visage, son profil, etc. Et on fabrique pour le monde entier de la porcelaine avec ses visages, comme dans les camées de Louis XIV avec le profil de la Pompadour. On sait le faire industriellement et c'est toujours unique. Donc ce rêve d'artisanat industriel, il est là, produire industriellement des pièces uniques. Donc on peut se dire, l'artisanat, bye bye, les métiers d'art, bye bye, et le numérique a gagné, c'est formidable. Et comme tout le monde est concepteur, tout le monde peut faire sa tasse, tout le monde peut faire son truc. On a facilité la façon de le faire. Hein. Et c'est la mort du design aussi, d'ailleurs, dans la foulée, puisque tout le monde est designer. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce que pour que ce système existe, il a fallu concevoir quelque chose. Ce que nous, on appelle un méta-design, donc c'est un objet fait par vous avec nos designs. Donc c'est pas je suis designer, c'est un nouveau dialogue. Et ce qu'on fait nous, c'est pas l'objet final finalement, c'est le design du procédé, ce qui est assez intéressant. Donc on voit que ça bouleverse terriblement l'industrie et que cette unicité, on peut l'appliquer à tout, on peut l'appliquer à un Airbus, à une tasse, on peut l'appliquer à une table, on peut l'appliquer à une automobile qui essaye désespérément depuis des années de produire des voitures uniques avec des conditions de série qui relèvent de l'histoire du Fordisme. On voit que c'est pas gagné. Et cette révolution numérique, une révolution de fabrication et de distribution. Elle est permise par des outils, comme des outils 3D, qui permettent de modéliser des complexités, de modéliser des objets non euclidiens, c'est-à-dire des objets avec des formes extrêmement complexes. On peut les prototyper, se rassurer en les imprimant en 3D, etc. Ils ne sont pas forcément fabriquables industriellement, pas des moulins, par exemple, si on veut faire des modèles en cire et tout, mais on a un potentiel vraiment extrêmement large. Alors là, c'est le discours enthousiaste, formidable, le numérique va tout remplacer, les métiers vont changer, la destruction créative, tant pis pour ceux qui crèvent, il faut prendre l'opportunité du numérique, youp la boum, tout va bien. Ces gens qui sont comme ça, je pourrais en être, hein, je suis designer, je suis numérique, chaque fois qu'on appelle Fréchin, c'est pour parler de numérique, c'est jamais pour parler de design, de sa sensibilité, du fait qu'il aime les choses extrêmement uniques et qu'il travaille dans l'industrie aussi, qu'il travaille pour les musées, qu'il travaille pour des fabricants de trains. Enfin, il est un peu partout, mais on ne lui demande jamais je parle de moi à troisième personne sur Alice, mais ben oui, parce qu'on ne demande jamais, voilà, quand on a gagné le papier peint ici, le projet, il était poétique. Bon. On m'appelle toujours pour le numérique, pour dire que c'est vachement bien, etc. J'en suis pas si sûr, mais je sais qu'on n'a pas le choix et j'y vais les deux pieds. Ma position aujourd'hui, à mon grand âge, c'est un peu celle d'Adolf Loos à Vienne. Adolf Loos, il a écrit un texte formidable, Ornement. L'ornement est un crime. Donc tout ce qui dépasse sur les façades, on nettoie, on passe l'éponge et on fait des super formes cubiques, etc. Et puis la vie, c'est compliqué, la vie, c'est des usages différents, la vie, c'est une humanité, c'est aussi une richesse d'éléments différents. Pourquoi je trouve Schönbrunn à Vienne jolie alors que c'est totalement baroque et que je vais à Vienne pour voir les modernes? Pourquoi Versailles m'intéresse aujourd'hui? Quand on nettoie Versailles, les proportions sont exceptionnelles. Mais le fait qu'il y ait ce décor sur la façade rajoute quelque chose. Je ne suis pas en train de dire que je suis un post-moderne. Je suis en train de dire que ce radicalisme, cette idéologie dans la création, c'est-à-dire avoir une création de conviction plutôt qu'une création de réflexive, fait qu'on fait des choix par idéologie et pas par raisonnement. Comme je suis un Français avec la raison critique et mon éducation, finalement, je suis assez sceptique et avec les modernes versus Adolf Loos, c'est que je comprends le revirement, puisque Adolf Loos, à la fin de sa carrière, a finalement condamné tout ce qu'il a dit quand il était un moderne. Jan Tschichol, le grand typographe du Bauhaus, a milité pour une typographie vraiment moderne, radicale, déstructurée, etc. Puis à la fin de la vie, il a redécouvert Aldus Manutius et comme tout le monde, il a fait des compositions avec le nombre d'or et il a repris les bases du début de l'imprimerie et des bases antiques comme tout le monde, parce que ça marche. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc ces barbares du numérique qui m'agacent parce qu'ils sont dans l'idéologie, ils ne sont pas dans le raisonnement. Et puis comme le monde est bien fait, ce numérique partout, ces écrans partout, dans cette France si abstraite, si intelligente, cette France où tout est numérisé au sens en chiffres, hein, Polytechnique n'est pas une école de physique, c'est une école de mathématiques, tout est mis en mathématiques, il y a une espèce d'effet de bord, de déterminisme qui fait qu'il y a une envie profonde chez les gens de ma génération, chez mes élèves dans le numérique, de redécouvrir cette chose-là, c'est la main, et de redécouvrir que cette main, elle est connectée à un cerveau et que pour être créatif, tout le monde est créatif, mais pour être un créateur, il faut finalement, d'abord c'est très dur, et quand on est tout seul avec son cerveau, sans pratique pour exprimer ce qu'on a à concevoir, pour l'architecte la planche à dessin, pour le designer la planche à dessin et la maquette, que finalement la main, c'est plutôt quelque chose de bienveillant dans la création qu'un ennemi. Et qu'on nous a appris et appris et appris. Dans mon école d'architecte communiste, on apprenait le dessin, mais on apprenait à se méfier de la main. Tout devait être intelligence. L'accident créatif n'existait pas. À l'ENSI, qui est une école basée sur un concept d'atelier, l'accident créatif est dans le concept de l'école. Puisqu'on fait des choses, forcément, en faisant son vélo, en faisant ses couverts, en apprenant à taper le maillot pour faire une cuillère, il y a des choses qu'on n'avait pas prévues, parce que le métal, il ne nous emmène pas forcément là où on veut aller. Mais que, alors à l'époque, comme je suis très vieux, il n'y avait pas de truc 3D et tout, donc on était obligé de soit faire un ref au feu, soit de la faire pour de vrai, faire une photo. Finalement, que cette main, elle était plutôt intéressante pour faire des choses et qui relevait tout un tas de problèmes que la pensée créative n'arrivait pas à traiter et que, n'ayant pas de vérité, la main nous aidait à faire des choix. Alors finalement, c'est assez proche de mon histoire de Sotsas et de Branzi, c'est-à-dire que l'atelier, l'artisan, le dialogue, faire, dialoguer, essayer, se tromper, recommencer, c'est intéressant. C'est comme ça qu'est né l'ENSI, sur le constat que dans un monde abstrait, dans un monde qui se désindustrialise, dans un monde où il existe aussi un espace économique des artisans, puisque le 11e où a été créée l'école est quand même un quartier qui n'était pas neutre dans Paris, le quartier du mobilier, le quartier du papier peint, le quartier des finitions, le quartier des lacs. Il y a tout un temps encore de métier à l'époque. Le design est cet espace où on fait d'abord les choses et ensuite on les théorise à la table à dessin, avait une raison d'être. Et ce combat, j'ai envie de dire, c'est le même entre les artisans qui partent du fer et quand j'écoute le film, j'entends des mots comme innovation. Alors, pas forcément... Non, c'est pas un moyen l'innovation, c'est résolument une facilité, c'est convoquer le nouveau, donc c'est une finalité, c'est pas un moyen, mais peu importe. Je vois des choses qui sont très proches et surtout qui est de dire dans notre monde abstrait, dans notre monde complexe, faire des choses avec ses mains, c'est une manière de penser. Et coder, pourquoi le code est important, puisque c'est le thème, coder la main. Coder, c'est pas quelque chose qu'on exécute, on fait l'ordre et ça marche. Il y a 50 possibilités de faire un programme, des façons très poétiques, des façons très dégueulasses, des façons très propres, des façons très prof de maths, la main dans la poche, la démonstration élégante au tableau, des façons nawak, mais ça marche. Un petit peu comme quand on a à faire quelque chose et qu'on se bat avec la matière pour la faire parler, pour l'exprimer. Tout ça s'est incarné dans cette école, les ateliers. Et puis aux États-Unis, ils ont un peu les mêmes problèmes. Ils ont créé ce qu'on appelle les Fab Labs, qui sont des endroits où on peut fabriquer à peu près n'importe quoi, mais on vient faire, avant de penser. Et la théorie naît d'une forme de pratique. Alors, pour des Américains, c'est, et pour des gens du nord de l'Europe, c'est des méthodes naturelles. C'est des gens qui relèvent d'une culture assez empirique. D'un point de vue philosophique, c'est dans leur façon de faire. Il y a une histoire que j'adore, à Bruges, donc, c'est une terre de savoir-faire, il y a eu un développement de l'imprimerie. Et puis ces imprimeurs, à un moment, se sont dit, mais c'est fort cher ces caractères. Monsieur Plantin, pourriez-vous me dessiner une police de caractères pour que je puisse imprimer mes livres? Monsieur Plantin leur a fait une police de caractères. Et puis une fois que ces imprimeurs de Bruges, qui mettent leur argent dans leur outil de travail, et contrairement... à nos bourgeois du Nord, à nous en France, qui ont des jolies maisons pour le week-end, mais qui, de leurs usines, ne produisent pas forcément de la qualité, ces imprimeurs du Nord sont devenus éditeurs. C'est-à-dire qu'ils ont fait la boucle complète d'une approche holistique ou d'un design global, comme on disait aujourd'hui. Ils sont partis de l'imprimerie, c'était des techniciens de l'impression. Ils se sont posé la question du langage, ils ont fait dessiner des caractères et ils sont devenus éditeurs. Bon. C'est une façon de faire, c'est la façon, disons, des anglo-saxons et du Nord. C'est empirique. Respecte le travail, etc. Nous, Français, c'est différent. Pour exister, je pense donc je suis, il faut qu'on comprenne avant de faire. Donc la compréhension est le préalable à tout. C'est formidable, hein, ça a donné tout le génie français, il n'y a pas de problème. Mais simplement, on a peut-être oublié, et dans cette histoire-là, donc Descartes, dans les Lumières, la raison, l'humanisme, etc., il y avait des tensions. Et notamment celui qui a porté, enfin les deux, mais surtout un que j'aime beaucoup, c'est Diderot. Diderot, c'était un peu le hacker, le maker, l'artisan de la bande. Oui, il bossait beaucoup, mais il a produit son encyclopédie, une encyclopédie avec des images pour permettre de partager cette partie de la chose. Il n'y a pas que de la raison, il y a de l'émotion et il y a des savoir-faire. Et donc tout ça, c'est dans nos gènes, on les a un peu oubliés et ce n'est que des questions de rééquilibre. Aujourd'hui, je crois profondément que la main est extraordinaire pour des designers, a fortiori elle est pour des gens de métier d'art, et qu'il manque peut-être aux designers une culture de production qu'ont les artisans, et il manque peut-être aux artisans d'art, et on le voit dans les maladresses de langage, je le dis tout à fait amicalement sur l'innovation, la notion de projet, et quelque part, pour le dire comme un consultant que je suis parfois, de prendre un savoir-faire, de le mettre dans un autre secteur et de voir la valeur que ça crée pour réellement innover et ne pas être l'artisan qui sait reproduire jusqu'à l'éternel les éléments de réparation du château de Versailles, mais qui peut effectivement se plonger dans une modernité réelle. J'en suis persuadé. Quand je vois ce que j'ai aperçu là, j'en suis absolument persuadé. On appelle ça les Fab Labs, c'est très hype, ça vient des États-Unis. Chez nous, c'est un peu plus compliqué, mais... les fameux laboratoires avec les artisans pensés, théorisés par nos amis italiens dans les années 70, on en a besoin aujourd'hui, à l'heure où on se pose la question de l'industrie, à l'heure où il y a un déficit de l'espace technologique en France, on est très fort en sciences, l'industrie, bon, etc., mais le bloc technologique du milieu, il est pas si fort que ça. Il y a plusieurs façons de manipuler de la technologie. Il y a plusieurs façons d'amener des ingénieurs à être à nouveau des concepteurs. C'est aussi passer par ça, par la main. Donc, il y a des croisements nouveaux, des modèles que moi, j'appelle transdisciplinaires. Ce qu'on a à faire, ce n'est pas ce qu'on sait faire d'habitude. Ce n'est pas ce que je sais faire d'habitude. C'est créer un objet nouveau qui nous dépasse. Et ensemble, au-delà de cet objet, on doit avancer. Et c'est ça l'espace qui est intéressant. Ce n'est pas un espace patrimonial. Ce n'est pas un espace de défense, c'est un espace qui saisit des opportunités, qui sait qu'il y a des déplacements et que ça change, et qui essaye d'adresser le nouveau avec gourmandise. Alors, adresser le nouveau avec gourmandise pour des Français, oui, c'est compliqué. C'était mieux avant en France, même le futur. Donc oui, c'est compliqué. Je le vois à l'école de design à l'ENSI, où mes étudiants, ou mes ex-étudiants, sont plutôt centrés sur hier que sur demain. Ça m'affole. On va sauver les machines à laver. Il y a des diplômes pour sauver les machines à laver qui ont besoin d'être sauvées, parce que les machines à laver d'avant sont mieux que celles que d'aujourd'hui. Alors les questions de coûts constants et d'évolution, bon, ça ne les intéresse pas. L'artisan, mais les étudiants français ont une fascination pour l'artisanat. Ils ne savent pas ce que c'est, mais ils ont une fascination absolue pour l'artisanat, comme un espèce d'espace qui a été un Eldorado où tout était merveilleux, où les femmes n'étaient pas battues, où l'argent coulait à flot et où les artisans dominaient le monde. Enfin, c'est, voilà, ils nous parlent de quelque chose qui a existé, qui n'a jamais existé. Bon, alors ça, c'est ce qu'on a à combattre tous. Et le fait que, dès qu'on parle de métiers d'art, on parle de patrimoine, je pense que c'est un des problèmes pour, non pas réinventer les métiers d'art, mais pour leur donner un chapitre de 100, 200 ans qui va continuer. Le numérique peut aider. Mais alors là, je vais faire mon philosophe de base, Bernard Stiegler. On voit que la main est importante. On voit que le numérique est une opportunité. Alors, l'opportunité pour des artisans comme ces messieurs, ce n'est pas un site web qui dit que c'est les meilleurs dans leur domaine. Hein. C'est interfacer ces messieurs avec Airbus, avec la NASA, avec des choses jamais faites. C'est quelque chose qui relève d'une promotion intelligente, d'une création de service avec ce qu'ils font. Ça reste à imaginer, mais pourquoi pas. Et puis, bien sûr, le plus classique, des nouveaux outils. Mais alors, je voudrais en terminer par cet espace-là. Les outils, c'est, comme le dit Bernard Stiegler, un pharmacon. Et les outils, il faut apprendre à les dominer. Rudy Ricciotti disait récemment, le numérique, c'est formidable dans l'architecture, mais si tu es kitsch au départ, tu es kitsch à l'arrivée. Il n'osait pas dire à la radio, si tu es con au départ, tu es con à l'arrivée. C'est-à-dire que l'outil, il faut le dominer. Et le dominer, ça veut dire... Ce que j'ai trop entendu chez mes étudiants ou dans des jeunes qui cherchent du boulot à l'agence, c'est qu'un outil, c'est qu'un moyen. Non, un outil, il détermine la condition de ce que vous faites, il vous change. Quand on passe du marteau à l'imprimante 3D, ça a forcément un impact sur la manière dont on travaille. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas d'exemple d'outils qui n'ont pas déterminé des changements dans les pratiques et de nouvelles pratiques. Donc l'arrivée de ces outils, modélisation 3D, imprimante 3D, pour faire des moulages à la cire, etc. C'est formidable, parce que c'est plus rapide. Vous allez pouvoir en parler, c'est ce qui est formidable. Les outils numériques pour faire des choses comme ça, et puis derrière, pour préparer des outils, bon, on le fait à la main, mais on peut le faire aussi en gravure chimique, à partir de finis numériques, etc. De toute façon, ça existe. Alors, oui, la réponse classique, c'est oui, mais c'est tellement plus long de le faire en 3D que de le faire comme je l'ai toujours fait. Quand moi, je suis passé de la planche à dessin à AutoCAD ou à ClariceCAD, bah, c'est évident que c'était à la vitesse où je dessinais, c'était plus facile de le faire à la main. Sauf que voilà, les plans, on les modifie, les plans, on les donne, puis les plans, il faut les envoyer à un client. Puis aujourd'hui, Bouygues Construction, j'ai une armoire à plans, donc il faut mettre les fichiers dans l'armoire à plans. Votre truc à la main, plus personne n'en veut. Et puis quand on le modifie et qu'on passe dans un mode de fabrication qui n'est pas je réfléchis, je fais, un mois après, je livre au client, 15 jours après, il m'envoie les modifs, je renvoie, et un mois après, je lui envoie le projet final, ce qui était les temps de projet quand j'ai commencé à travailler. Aujourd'hui, on fait des projets qu'on faisait en 6 mois quand je travaillais pour Seb dans les années 90. Aujourd'hui, on les fait en un mois. Donc, quelque part, le numérique il nous a aidé des choses. Mais ce n'est pas ça l'écueil pour les artisans d'art, à mon avis. Je pense que le numérique facilite plein de choses et que les formes non euclidiennes, c'est bien de les tester en 3D parce qu'à l'écran, ce n'est pas bien et à la main, c'est tellement long à faire que si ça ne va pas, il faut refaire et ça coûte de l'argent. Le vrai danger du numérique, et les apports, je vous laisserai dire si vous trouvez des apports, je ne sais pas. Le vrai danger de ces outils numériques, s'ils facilitent, c'est que tout le monde peut les avoir et que finalement, la différence qui fait un artisan un artisan d'art français, est quelqu'un qui utilise des outils. Bon, bien sûr, il a un cerveau qui fait qu'il y a une unicité. C'est que la différence entre ce téléphone, qui est formidable, qui est un objet de précision, de qualité, il est toujours pareil, quoi qu'il arrive. Une montre IWC, elle est quasiment toujours identique. Quand vous commencez à aller vers la haute horlogerie suisse, les montres deviennent uniques. Et sur un même modèle, il y a des micro-variations. Et ces micro-variations, le fait que les objets soient réellement pas uniques, ont de la valeur. Si les artisans d'art français travaillent avec des outils numériques par forme de commodité, il y a une partie de l'unicité qui disparaît. Il y a une partie de leur pratique qui devient une commoditisation, comme on dit, c'est-à-dire n'importe qui peut l'apprendre. Et ça, c'est une question auquel je n'ai pas de réponse, qui est la même que pour les industriels. Si vous êtes Samsung et que vous achetez les mêmes machines allemandes que celles qui sont chez Foxconn pour Apple, eh ben vous arrivez à produire le même design qu'Apple. Alors, le coût à l'entrée est très cher, hein, mais finalement, le procédé qui était unique pendant un moment devient lui aussi une commodité. Quant à la technologie pure du téléphone, les puces et tout ça, ça n'existe plus dans la bagarre. Aujourd'hui, c'est procédé de fabrication et design. La techno de valeur, la puce 4G, c'est de la commodité. Ça ne joue plus dans la pièce, ça n'existe plus. Alors ça, c'est bien pour les métiers d'art, ce qui veut dire que tout ce qui crée de la différence a une valeur, quand elle est dans une modernité, des usages, etc. Donc ça, c'est formidable pour ces gens qui créent par essence de l'unicité. Par contre, numériser des artisans d'art, des métiers d'art, pour de la productivité, c'est très dangereux. Numériser des artisans d'art comme le code peut créer de la poésie ou le code peut créer le logiciel Louvois qui n'arrive pas à payer les soldats français, on voit que c'est deux choses différentes. Et c'est là où il ne faut pas se tromper dans la manière dont on utilise le numérique. Non, ce n'est pas qu'un outil, c'est le vecteur le plus puissant pour exprimer ce qu'on veut faire et ce qu'on est. Donc je ne sais pas si j'ai été clair, mais le delta de numérisation de métiers comme dans l'industrie, il n'y a pas de choix, c'est fait. Mais dans des métiers comme le vôtre, c'est un choix finalement à plus d'entrée que c'est bien, c'est mal, ça va vite, c'est pas cher. Voilà, je vous remercie.
Merci Jean-Louis Fréchin, on pourrait vous écouter des heures. Il y aura peut-être d'autres séquences. Laurent Nogue et Clément Vineau vont nous parler de leur expérience dans le champ du gaufrage. Il y a deux micros, je pense.
Merci. Bonjour et puis merci pour ce merveilleux exposé. Donc nous sommes une structure qui, je ne sais pas si on vous montre peut-être en même temps un certain nombre d'images. Nous sommes une structure qui a trois activités qui sont devenues quatre. La première activité, c'est un studio de création. La deuxième, c'est un bureau de fabrication. Et le troisième, qui est le métier un peu traditionnel et historique, qui est un atelier spécialisé dans les techniques de gaufrage et de marquage à chaud, qui sont des techniques dans les techniques de l'univers de l'imprimerie. Le gaufrage étant tout ce qui est mis en relief, essentiellement sur papier, mais qui peut être sur d'autres matériaux. La quatrième activité est née il n'y a pas très longtemps, et on l'appelle le laboratoire de gravure. Cette nouvelle activité a permis d'introduire dans notre structure effectivement une fraiseuse numérique et donc la possibilité et la capacité pour notre structure de pouvoir réaliser les matrices que l'on utilise pour matérialiser la déformation sur papier. Donc pourquoi on en est arrivé là ? En fait, jusqu'à présent, les choses étaient très simples puisque nous avions nos graveurs et plusieurs graveurs avec des techniques tout à fait particulières, que ce soit de la morsure à l'acide, que ce soit de la gravure manuelle ou de la gravure numérique. Et en fonction des qualités et des visuels et des demandes de nos clients, on oriente vers tel ou tel graveur avec tel ou tel talent. Ces derniers temps, au fil de notre histoire, on a réussi dans la technique à redonner un niveau de qualité qui a suscité un renouveau de l'envie de l'utilisation de nos clients de la technique. Du coup, on s'est retrouvé à travailler beaucoup avec les studios de création et on s'est retrouvé au cœur d'une démarche de recherche et d'innovation de nos propres clients. Et quand on se retrouve à ce niveau-là, eh bien, il y a des envies toujours plus innovantes, entre guillemets, ou de pas encore vues, ou comment on va où se pose une question, c'est comment on va réaliser ça. Donc, face à ces difficultés, eh bien, il faut trouver les moyens d'y répondre et d'y faire face. On a eu un projet magnifique avec la maison Guerlain sur les 160 ans du flacon abeille qu'on a appelé la ruche impériale. Et la maison Guerlain a missionné un certain nombre de maîtres d'art pour fêter cet anniversaire. Et donc nous avons travaillé autour d'une idée qui était un coffret exceptionnel, mais avec une matérialisation d'un décor, d'une alvéole, puisque nous avons créé effectivement cet univers de la ruche. Et on va vous faire passer quelques exemplaires dans la salle pour vous montrer la réalisation, enfin une partie de la réalisation, puisque cet élément qui va circuler est un élément de décor du coffret. Et en amont, une idée, c'est de retranscrire cet alvéole. Donc, dans, je dirais, notre approche traditionnelle du travail, on interroge nos prestataires et nos partenaires en disant, voilà, on a cette idée. Et on a besoin de vous pour réaliser la matrice, pour presser nos décors et nos réalisations. Et là, personne ne répond. Personne ne répond, tout au moins si on a une possibilité. On a toujours une possibilité en manuel. Donc la gravure manuelle, c'est la gravure à l'ancienne où c'est l'artisan qui grave en taille directe. Mais réaliser un tel élément en taille directe à la main, bah, c'est une belle aventure, mais on ne sait jamais comment ça va sortir et surtout le temps que ça va prendre. Or aujourd'hui, aucun projet ne nous permet de dire à notre client, bah, vous savez, on va le faire, mais on ne sait pas quand. Et surtout, on ne sait pas quel sera le résultat non plus. Donc, on s'approche quand même plutôt sur une réalisation en fraisage numérique. Et là, sur nos prestataires, personne ne répond. Il y en a même un qui dit, mais tu ne te rends pas compte, je ne vais même pas essayer. Ça se trouve, ça va faire exploser ma commande. Bon, on n'était absolument pas dans ce niveau, dans ce secteur, et donc ça me paraissait quand même curieux. Et puis, entre la matrice, donc la gravure, et l'idée, il y a un fichier à réaliser, qui est un fichier 3D. Alors, comme on s'est un petit peu agacé, et puis que c'est un projet qui nous tenait à cœur, et qu'effectivement, on matérialisait quand même qu'en termes à la fois de gravure et de retranscription en gaufrage, il y avait quelque chose d'assez nouveau et quelque chose qu'il était intéressant de tenter. Donc on s'est équipé en programmation 3D et on a, par nous-mêmes, et grâce à Clément qui est à côté de moi, matérialisé le fichier. Et puis on a fait un petit bout. Et puis on a dit, on a obligé un de nos prestataires avec lequel on travaille le plus, on l'a obligé à faire. Et puis, il a réussi à le faire. Et puis, absolument sans problème, sans aucune difficulté. Alors déjà, ça fait tilt. Et on s'est dit, il y a quand même quelque chose à creuser. Et alors, on va peut-être vous montrer quand même la matérialisation. Voici la gravure. Donc la gravure, qui est donc en négatif et en creux. Et là, c'est une autre gravure dans laquelle on a ajouté une complexité. C'est que non seulement on a l'alvéole, mais qu'en plus, dans l'alvéole, on a recréé un autre volume qui était celui du flacon. Voilà la gravure sur la presse. et puis un gros plan de la matérialisation. Et voilà l'objet final. À la suite de ça, donc notre graveur a quand même réussi à faire nos plaques, nos gravures. Un nouveau projet s'offre à nous, un projet absolument exceptionnel, qui est une reproduction d'une œuvre sculpturale de Parvin Curie, qui est une artiste sculptrice, qui fait appel à, de la même façon, à de grandes interrogations sur le comment réaliser la gravure. Alors on va vous montrer quand même le. Là, c'est assez amusant puisque c'est les programmations 3D qui sont d'un graphisme étonnant. Ce qui s'est posé comme problème, montre-nous peut-être là. Voilà, ça c'est la matrice et on va vous montrer. Voilà la réalisation. Cette réalisation, pas même chose. Alors là, je peux vous assurer que c'est une autre problématique. C'est qu'on a des problèmes de perspective et de dessin à respecter, mais qui sont absolument hallucinantes. Non, même chose, même propos, comment on fait la gravure, comment on l'approche, toujours la solution de la main, elle est toujours là, mais toujours les mêmes réponses. Combien de temps, quel prix et quel résultat, on ne sait pas. Et donc là, on n'a pas attendu personne, qui que ce soit, pour faire le fichier, on a attaqué directement le fichier 3D. Et là, on a interrogé encore nos prestataires habituels. Et là, la réponse est hallucinante sur le prix qu'on nous demande pour la gravure de la plaque. Donc, on est sur un budget qui, rien que pour la gravure, va avoisiner les 9000 euros. Inutile de vous dire que ça, c'est un sacré budget. Alors ça agace encore un petit peu. Et donc, pour le coup... on sort de notre secteur d'activité pour trouver des graveurs numériques. Et on trouve des graveurs numériques qui nous gravent pour la somme de 1680 euros. Et ça matérialise un état d'esprit, un état des lieux d'un secteur et d'une activité. Donc, une fois ce constat fait, eh bien, on s'est dit... on va aller pousser le bouchon un peu plus loin et on va voir quels sont les équipements possibles, quels sont leurs coûts et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Et donc, d'abord, on a fini ce travail, bien sûr. Alors, ce travail, il a été, chose importante aussi, il a été réalisé dans un premier temps par fraisage numérique, mais avec une reprise manuelle sur la totalité des éléments. Parce qu'on a quelque part toujours la même mission qui est de rendre une esthétique inégalée. Et que là, on va rejoindre à la fois l'idée de la main, mais aussi et avant tout ce que l'on a dans la tête et l'idée de ce que l'on veut reproduire. Et cette idée, ce sens qui nous pousse, qui est celui de l'esthétique et de, aussi de répondre à la demande, là en l'occurrence, de l'artiste, qui est d'être le plus fidèle possible à l'œuvre. Donc, on a réalisé ces deux œuvres. Celle-ci est un petit format et l'autre est un... Là, par contre, on n'a pas les éléments... Mais enfin, ça, ces deux réalisations-là ont été quand même, je dois avouer, les deux travaux les plus difficiles qui nous aient été donnés de réaliser. Mais aussi les plus intéressants qui nous a poussés dans nos retranchements et qui nous a incités effectivement à nous équiper en commande numérique. Donc depuis le mois fin novembre, nous sommes équipés, nous avons dans notre atelier cette machine. Et cette machine nous permet d'abord d'aller au bout de nos envies, Et surtout, au-delà d'un process industriel, d'une activité supplémentaire que l'on rajoute à l'entreprise, c'est un formidable outil de recherche qui nous ouvre des horizons qu'on ne soupçonnait pas jusqu'à présent. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qui nous repositionne aussi, nous, en tant qu'entreprise, dans une avance, dans une avant-garde éventuellement, si je peux me permettre, sur la technique et sur la retranscription. Et puis, on va terminer, là, on va vous montrer effectivement ce travail qui est un présentoir de vitrine pour la maison Chaumet. Et ça, c'est une petite histoire qui est sympathique parce que la machine est arrivée fin novembre. On a eu 15 jours de réalisation, d'entraînement. Et au bout de 15 jours, on a la maison Chaumet qui vient nous voir, qui sont les gens de la PLV. Et avec ce projet et cette œuvre créée par l'artiste Loris Cecchini, avec cette problématique qui est, c'est une montre Class One qui est une édition limitée qui est lancée, et l'idée est de reproduire ce motif. Et l'interrogation des gens de la PLV est extrêmement simple, c'est-à-dire qu'ils ont étudié toutes les possibilités de le reproduire, et le gaufrage finalement en était une parmi tant d'autres. Finalement pas tant d'autres que ça. Et là, on a été en mesure, à la fois, certes le fichier numérique là était fourni par le client et on a pu immédiatement l'exploiter et l'adapter au travail à réaliser, mais c'est surtout qu'en 15 jours de temps, on a été en mesure de faire la réponse commerciale jusqu'à la réalisation de cette PLV de vitrine. Ça, sans cet outil-là, et sans aussi ce savoir-faire qui s'est installé finalement très, très rapidement, mais qui en amont a le savoir-faire de notre technique, et aussi ce dialogue constant que l'on a eu dans notre histoire avec nos graveurs, et avec la façon d'aborder la gravure, la volonté d'esthétique constante, et la volonté de sortir toujours un travail de qualité et un travail innovant. Donc c'est une petite histoire fort sympathique parce que 3 semaines après l'arrivée de cette machine, on a eu aussi par cet exemple tout l'intérêt et la justification de cet investissement qui est quand même un investissement très conséquent. Donc voici la visualisation 3D et voici la matrice. Et voilà, et ça vous avez l'élément devant vous. Donc voilà dans notre univers, dans notre structure, l'arrivée du numérique qui a transformé effectivement la structure, mais qui nous a donné, et ce n'est pas pour rien qu'on appelle le laboratoire de gravure, parce que vraiment on a investi un terrain, une recherche supplémentaire et une efficacité supplémentaire. Voilà.
Merci Laurent et Clément de nous avoir montré donc ces 3 expériences en live. Bon, après on a envie de voir la machine, mais Stéphane. D'accord. Stéphane Bondu, donc joaillier, va nous montrer ces différentes machines et ce qu'elles ont permis de réaliser. Je vous laisse le micro, Stéphane.
Bien, bonsoir à tous. Je me présente, je suis Stéphane Bondu et je dirige une petite société qui est située pas très loin d'ici, rue du Mont-Tabor. Voilà, donc nous fabriquons des choses diverses et variées, toujours en pièces uniques et Nous avons investi le monde du numérique depuis pas loin d'une dizaine d'années. C'est quelque chose qui est très présent dans la profession. C'est-à-dire que le métier a subi une profonde mutation. En fait, il y a de cela, avant l'arrivée du numérique, en fait, il fallait travailler à peu près pendant 10 ans pour obtenir une maîtrise et être un très bon joaillier. C'était une étape assez longue, fastidieuse, qui n'était pas, c'était pas donné à tout le monde de pouvoir réussir. Et l'arrivée du numérique a complètement révolutionné en fait, la structure des entreprises. Il y a maintenant des élèves qui sortent des écoles qui sont presque aussi compétents que des gens qui ont 20 ans ou 30 ans de métier. Donc ça génère une nouvelle organisation du monde du travail. Nous, personnellement, comme nous fabriquons uniquement des pièces uniques, nous ne sommes pas dans des domaines de production. La plupart des sociétés sont structurées maintenant avec des développeurs en informatique. On a plus tout un processus avant une progression dans le métier, en fait. Donc ça, je voulais vous parler de ça parce que c'est quelque chose qui tient un réel changement, en fait. Donc je vais vous présenter quelques pièces. En fait, là, vous avez dans un premier temps, donc je vous présente les machines qui sont arrivées récemment à l'atelier. Ce ne sont pas forcément des machines de haute technologie. Ça, c'est une imprimante à fil ABS ou PLA. Et c'est une machine qui est très abordable. On a payé ça, dans les 2000 euros. Mais les premiers, c'est le type d'imprimante que tout le monde va pouvoir avoir à domicile, en fait. C'est ce qui se développe beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est l'imprimante qui est beaucoup utilisée en bijouterie et dans beaucoup de domaines d'industrie. C'est une machine qui est très onéreuse, c'est dans les 50 000 euros. C'est pas très gros, c'est un peu basé sur le principe d'une imprimante de bureau avec des bus qui chauffent et ça dépose couche par couche de la cire. C'est une technologie très pointue, qui est très très fragile, qui nécessite beaucoup d'entretien. Beaucoup de SAV, les têtes coûtent à peu près 1500 euros, il faut les changer souvent et il faut que ça tourne en continu. La moindre coupure de courant peut entraîner des dégâts sur la machine. Mais depuis l'arrivée de cette machine, c'est ça qui a complètement changé la profession. Avant, on pouvait modéliser, mais on ne pouvait pas imprimer ça. C'est vraiment une imprimante qui est d'une telle précision. Ça nous a ouvert aussi de nombreuses possibilités. Voilà, nous allons continuer sur les deux autres machines. Donc, la Formlab, qui est une machine qui a été développée en Amérique, et aussi un appareil à stéréolithographie de type laser. Une machine très abordable, mais qui a un plateau de très grand volume et dont les consommables sont très peu chers. Par comparaison avec celle-ci, qui est une machine allemande, la Perfactory, chez Envision. Ce sont des machines qui, elles, là, coûtent très cher à l'achat, très cher en consommable. Alors, on va enchaîner un petit peu avec ce qu'on peut faire. Alors, oui, ça, je voulais vous présenter aussi ce qui est un peu le complément de la programmation ou de la modélisation. Ce sont des scanners 3D. Maintenant, ils sont très performants. Celui-ci, un peu dédié aux choses de petite taille, au milieu dentaire et au milieu de la bijouterie. Voilà, donc là c'est une photo que j'ai prise tout à l'heure, juste avant de... Non, c'était hier. Bon. J'ai préparé mon dossier un petit peu tard. Et là, c'est une fraiseuse 4 axes. Là, on travaille sur 3 axes. On travaille, c'est l'élaboration d'un bijou pour une maison de la place Vendôme. Ce sont deux morceaux de jade. Donc ils sont usinés avec des outils diamants. Donc je reste un petit peu dans le concret pour l'instant. Ça, c'est une autre machine qu'on a mise au point. En fait, on a eu une commande, il nous fallait qu'on fabrique des gouttes. Alors, Il y a quelque temps, nous fabriquions ces gouttes à la main et c'était 20 à 30 heures de travail par goutte. Et pour faire deux gouttes identiques, c'est très compliqué en fait. Hein, voilà. Donc là, il y a un bloc de turquoise qui est sur la machine. Il y a une meule diamant, tout ça, ça travaille sous arrosage. Et le résultat, voilà, ça nous sort une goutte comme ça qui est faite en turquoise, qui nous permet d'avoir plusieurs modèles, de pouvoir reproduire plusieurs fois la même goutte. Même si nous travaillons toujours en pièces uniques, le fait de pouvoir créer des choses comme ça à la main, c'est vrai que c'était quelque chose de presque pas vendable, quoi. C'était tellement, on passait de temps sur ça. C'était surtout compliqué et pénible. Oui, c'était pénible. Alors ça, c'est un gros pendentif qu'on a fait pour Fabergé. C'est un pendentif composé de trois scènes. Donc là, vous avez la scène avec les grenouilles, avec des yeux en cornaline. Il y a des éléments diamants qui sont rajoutés. C'est un œuf puzzle, en fait. Bon, alors, je ne sais pas si le design va vous plaire, mais c'était la manière qu'on a Fabergé a recommencé à fabriquer des œufs. Ils ont voulu faire ça. Voilà, c'est donc les trois scènes, il y a une fleur et il y a un poisson. Donc c'est il y a une caractéristique. Bon, les scènes après peuvent se mélanger, se recomposer. Et c'est intéressant au niveau. C'est vraiment quelque chose qui est passé par l'élaboration sur les programmes sur Rhinocéros. Hein, mais c'est une pièce qui a émaillé grand feu, qui ne supporte pas les soudures. On ne peut pas avoir des éléments soudés. Et donc c'est une pièce qui ne pouvait être faite qu'en numérique en fait. Hein, là on voit les éléments qui ça se mélange. Et voilà les différents composants de la pièce. C'est une pièce qui est en or, émaillée grand feu. Et toute la structure, toute la composition, l'élaboration se fait réellement sur ordinateur en fait. Hein. Il y a des cages à roulement avec des roulements céramiques. Et après pour bloquer la pièce, il y avait des aimants qui permettaient de bloquer les scènes. C'est bon pour un bijou, c'est un petit peu high-tech. Au niveau de la composition, c'est un petit peu de la micro-mécanique. Je vous prends. C'est un petit peu sur le même principe que le gaufrage. Là, c'est nous avions en commande la fabrication d'un cadran de montre en matière. Donc, nous fabriquons beaucoup d'éléments en pierre dure. Donc là, nous avons usiné un morceau de chrysoprase. Une autre machine qui est une machine à ultrasons qui permet de découper, défoncer, de graver la pierre. Là, on la voit en action, sous l'action des ultrasons. Il y a un bain de carborandum qui vient et ça permet donc de graver des matières dures, comme la pierre dure. Donc on voit un essai en ardoise et puis l'autre partie est en chrysoprase. C'est une pierre de la famille des quartz qui vient d'Australie. Voilà, le cadran de montre fini. Voilà. Cette pièce, si on avait dû la réaliser à la main, ça aurait été pas vraiment possible en fait. Donc l'apport de ces technologies nous permet de réaliser d'autres choses. Alors à la fois, quand nous avons un travail à faire, nous réunissons et nous choisissons les procédés de fabrication, mais ils sont divers et variés. Donc ça peut être à la main, ça peut être, on peut choisir de faire quelque chose comme ça à la main, comme les gravures précédemment évoquées par Laurent. Mais parfois, là, pour ce cadran-ci, c'était obligatoirement quelque chose qui est géré numériquement. Voilà. Voilà, moi je vais faire un petit peu plus court que mes prédécesseurs. Je n'ai pas trop l'habitude de parler en public. Je vous remercie.
Merci. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux questions. Questions Jean-Louis Fréchin, Laurent Nogue, Stéphane Bondu. Laurent a encore un petit film, je pense, qu'on pourra passer peut-être tout à l'heure. Après le... Comment ? Donc voilà, qui se hasarde à poser la première question ?
Pascal, j'aimerais que Laurent nous dise quelques mots, parce que je rebondis sur ce que Jean-Louis Fréchin a dit. C'est-à-dire que l'utilisation, au-delà, le développement de ces techniques et surtout de cette recherche menée par nos amis. Au-delà du fait de répondre à des commandes spécifiques de clients, les amène effectivement à imaginer d'autres choses. Et je pense que pour Laurent, ça a été une aventure dans un autre domaine, à la fois poétique et social, on peut dire, dans ses applications. Et j'aimerais qu'il nous en dise quelques mots, parce que je trouve que c'est une application qui est née de son développement technique auquel il n'aurait pas forcément pensé en répondant à ce projet plus commercial.
Oui, merci Marie-Hélène. Nous avons, en partenariat avec les éditions du patrimoine, développé une collection. Et aussi, sur une idée initiale de Christian Bessignol, graveur et professeur de gravure, de mettre, grâce à la technique du gaufrage, donc de la mise en relief sur papier, de pouvoir réaliser des ouvrages tactiles et rendre l'image lisible, entre guillemets, tactilement par les personnes aveugles. On est à notre cinquième ouvrage. C'est une vraie révolution sociétale, puisqu'on donne quand même l'accès maintenant à une image, certes simplifiée, mais néanmoins une possibilité de matérialisation et de découverte pour les personnes aveugles. Donc là, vous avez une programmation, le résultat d'une programmation 3D, la gravure de nouveau, et effectivement la réalisation. Il y a quelques planches qui passent. Vous avez l'ouvrage ici que vous pouvez bien sûr consulter si vous le souhaitez. Et là, vous avez toujours ce graphique, ce graphisme étonnant de la programmation 3D. Nouvelle plaque et nouvelle réalisation.
Merci, Laurent. Donc, c'est un usage social intéressant que permet cette technique. Voilà. Une question. Merci de vous présenter. Pardon, monsieur.
Bonjour, je suis journaliste. J'ai une question au sujet du carton d'invitation Chaumet qu'on a vu passer, que donc personnellement j'avais reçu et que j'avais trouvé magnifique. Je voulais savoir au niveau des coûts, quels sont les coûts pour ce genre de carton par rapport à une impression classique, un gaufrage classique.
Merci donc.
Je ne m'attendais pas à aborder le sujet économique. Le coût, comment vous dire, je dirais que ça coûte plus cher qu'une simple impression, entre guillemets, à savoir une impression offset. Vous avez le coût de la matrice, vous avez le coût du tirage. Et vous avez effectivement nécessité d'avoir un support avec des qualités exceptionnelles qui est rien que le support pour vous donner un ordre d'idée sur par rapport à un support d'impression basique est un rapport de 1 à 30. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que le carton a ce prix-là. Mais néanmoins, effectivement, on est sur un coût qui n'a rien à voir avec un carton classique. Ça, c'est clair. Quant à vous donner le prix exact, je ne l'ai plus en tête, mais il est variable, évidemment, en termes de quantité aussi. Parce que dans notre technique, on est le but aussi de notre technique est la réalisation du multiple. Voilà. On n'est pas uniquement dans la pièce unique. Et effectivement, les coûts étant bien moindres, si la quantité est plus importante.
Ouais, je pense qu'on est exactement dans ce que disait Rudy Ricciotti, ou ce qu'on apprend dans les écoles, ou ce que j'apprends, ou ce que je crois profondément, c'est-à-dire quand on domine l'outil et qu'on le sort de ce pour quoi il est prévu, quand les fabricants d'outils ne nous imposent pas des processus, des procédés, des workflows, comme on dit, puisqu'ils sont tous américains, on arrive à faire des choses intéressantes. Les outils qu'utilise monsieur, j'ai les mêmes dans mon agence. Et les mêmes dans les Fab Labs, les machines qui testent, j'ai les mêmes, je les connais. Et je vois bien ce qu'était le génie des ateliers. Je regarde les gens des ateliers qui sont ici, ce qu'ils ne sont plus, c'est-à-dire la capacité à choisir les bonnes machines pour faire ce qu'on a envie de faire au moment où on veut le faire et non pas faire une conception dominée par les machines. Le choix que vous avez est absolument celui de la liberté. Essayer de tordre le cou à ces putains de machines qui... font pas exactement ce qu'on veut qu'elles fassent. Et là, on est dans l'adoption, dirait Pierre Damien-Huyghe, la domination. Mon associé qui développe des cartes électroniques dit « tordre le cou à la technologie pour pas qu'elle nous embête », on est vraiment là-dedans. Et vous, monsieur, bah, je retrouve comment dire, deux choses. D'abord, une qualité qui est chez vous aussi extraordinaire. Le papier blanc, ça parle toujours aux architectes, ces maquettes blanches sont formidables. Et j'étais très touché par votre aventure de la machine. Mon premier projet de designer industriel pour un client qui s'appelait Seb, qui n'arrivait pas à faire des choses nouvelles. Mes employeurs de l'époque, qui étaient aussi mes profs, m'avaient dit « vas-y, carte blanche ». Quand on a 20 ans, designer, c'est juste génial. Et Seb n'arrivant pas à le faire, ils sont allés voir un Italien pour faire de l'injection transparente, dépolie sur un objet qui allait être peint, qui ressemblait à une architecture. Et l'Italien m'a dit, on va acheter tout ça. Et le type, il a acheté une CAO, une injection 5 tonnes, une cabine de peinture. Il n'avait jamais fait tout ça. Et puis, il y est allé. Et tordre le cou à la technique, c'est aussi y aller et pas croire à ce qu'on nous dit, quoi. Le c'est pas possible, mais vous y pensez pas, monsieur. Enfin, ça fait partie. Et être un peu hacker, c'est-à-dire être un peu simplement des omnis pour essayer d'utiliser... la technique pour ce qu'elle peut nous servir et pas nous asservir. Là, je me sens très proche, vraiment très proche de vous. Et c'est ce que je disais dans ma conclusion. Là, on voit l'écriture d'une aventure des maîtres d'art sur le siècle des siècles qui vient, à condition que vous restiez dans cette domination des technologies que vous utilisez. Voilà.
Oui, Olivier Blancard, sculpteur. J'ai une question, parce qu'en fait, dans le dentaire et le bijou, on a une très grande précision. Après, je suis allé à Euromold à Francfort. On voit des choses comme du rétro-engineering sur des pales d'avion, des gros objets. Et où on en est de la précision sur la 3D, sur des objets de taille intermédiaire, en fait.
Quelle taille intermédiaire ?
En centimètres ? Ben, votre tête. Non, parce que je fais des bustes. Voilà.
Là, c'est une question de prix. Hein, avec Sculteo, sur des machines polyamide, object, etc., vous avez une précision. Aujourd'hui, l'enjeu des fabricants, ce n'est pas la précision. L'enjeu des fabricants, c'est la vitesse.
Il me semblait qu'il y avait un trou d'échelle entre la très grande précision bijoutière et puis après des objets...
Non, sur les machines type qui sont dans les fermes Sculteo en polyamide, on a une belle précision. Alors la finition qui n'est pas n'est pas forcément optimum, contrairement à stéréolithographie. Chez Cresilas, qui est une société du plateau de Saclay, qui fait partie du réseau qui a inventé ces machines-là, parce qu'il faut savoir que c'est inventé en France, on n'en a aucun brevet. Mais ça a été inventé en France. Là, c'est là où on voit où on est bon. Eux, ils font de la stéréolitho sur des grandes cuves, du genre pièces de Formule 1, blocs de moteur, etc. C'est les mêmes machines qu'il y a chez Renault F1, enfin ex-Renault F1 Lotus, pour tester des pièces avec des précisions phénoménales. En stéréolitho, pour une taille de la tête. Non, c'est simplement ces deux technologies différentes. La machine objet que vous pouvez l'avoir chez vous dans cette pièce, les machines stéréolitho, c'est liquide, il y a des résines qui ne sentent pas bon, ça donne mal au crâne, donc il faut être dans des locaux industriels, ventilés, etc.
Sont très très rétifs. Là, ils me disent, mais si j'ai introduit la 3D, je perds mon métier. J'entends ça. Hein. Or, moi, j'ai des idées en tête et on me dit, c'est pas possible. Même le pape du bronze m'a dit que c'est pas possible.
Ouais. Rama. Il y a des gens qui ont dit ça et qui sont morts. Je connais des gens dans la pierre. Je connais des gens dans la pierre qui ont investi sur des machines 5 axes pour faire du sculptéo. Ils sont venus me voir, c'est-à-dire fabriquer industriellement des objets uniques connectés à des fermes de machines objects, etc., avec des machines qui taillent des blocs de marbre ou des tailles de pierre ou n'importe quel type de pierre. Le type, il est au fin fond de la Meuse, là, il va plutôt bien. Les vendeurs de marbre au Portugal qui coupent au fil le marbre, ont attaqué frontalement pour les meilleurs dans la région de, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'y étais cet été, pour tout ce qui est sculpture, etc. Alors eux, c'est pour prédécouper, pour préparer avant la taille finale à la main. Parce que le fait main dans des sculptures d'un émir de Dubaï, le fait main reste important. Mais pour préparer le modèle, là, il y a des machines qui viennent préparer les blocs de marbre, ils sont livrés, c'est fini à la main. Enfin, moi, j'ai plutôt été surpris par les petites échelles, les bijoux, que sur les gros objets. Ce qui est fabrication soustractive, donc fraisage pour de la sculpture sur de la pierre, aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Sur la fabrication additive, les machines qu'on a vues, soustractives chez monsieur, additives chez monsieur, bon, bah, bien sûr, il y a des éléments de taille, bien que aujourd'hui, on arrive à imprimer des maisons en 3D.
Oui.
Bonjour, Alexis Roland, développeur. Moi, j'avais quelques questions sur la partie acquisition de la machine, de la fraiseuse numérique. Comment ça s'est passé? Comment l'histoire s'est construite? C'est-à-dire, est-ce que vous avez tout de suite songé à justement dominer le savoir et à intégrer la machine avec vos propres compétences? Ou est-ce que vous avez songé à éventuellement embaucher quelqu'un pour gérer cette machine? Et si, dans les deux cas, comment c'est... intégrer justement la domination de ce savoir au sein de votre entreprise.
Alors, il y avait déjà une chance, c'est que effectivement, en tant que maître d'art, on doit maltraiter un élève et que j'ai pu le maltraiter et qu'il avait déjà approché la programmation 3D à l'école Estienne et en fait. Mais je vais le laisser s'exprimer sur le sujet parce qu'il va être plus en mesure de répondre à l'ensemble de votre question. Mais une chose est sûre, c'est que on se lance pas bille en tête dans un investissement comme celui-ci parce que nous ça représente au global 120 000 euros. Il faut quand même à minima effectivement être à peu près sûr qu'on va pouvoir s'en servir un petit peu. Après, comme je vous dis, c'est un outil de recherche. Aujourd'hui, la prise en main que Clément a eue nous permet aujourd'hui déjà de réaliser des pièces comme vous avez pu voir, qui est déjà assez exceptionnelle. Mais là où on en est aujourd'hui, si on se dit waouh, on ne sait pas ce qu'on va faire demain, mais c'est sûr, on va en tirer quelque chose d'extraordinaire. Je te laisse répondre pour le reste.
Comme disait Laurent, effectivement, Laurent n'a pas engagé de personne pour être derrière la commande. En fait, c'est ça, c'est pas derrière la commande, c'est derrière l'ordinateur. Parce que la commande tourne toute seule. Là, elle travaille, moi je suis tranquille, c'est bien. Non, c'est surtout le point fort ou la chance qu'on a eue, c'est que effectivement, comme disait Laurent, j'avais des bases de programmation 3D, mais très légères. Vraiment légère. Par contre, j'avais des bases théoriques et légèrement techniques de la gravure manuelle. Et c'est ce qui nous a effectivement différencié de notre fournisseur historique de gravure numérique, qui, eux, ne sont pas forcément graveurs, on les dit graveurs, mais sont plutôt usineurs. C'est-à-dire qu'ils vont enlever la matière, la réflexion étant là ou pas là, le problème se pose. C'est-à-dire que moi, tant à l'école qu'en stage, et également en impression, parce que j'ai commencé avec Laurent en tant qu'imprimeur et pas en tant que graveur, on apprend à faire travailler le papier. le papier étant de matière vivante, on apprend à pas lui faire trop mal. Et donc c'est cette réflexion qui est importante dans la programmation. Par exemple, ce que vous avez sous les yeux, il y a deux caractéristiques là-dedans, c'est que effectivement on vient reproduire un motif qui existe déjà, donc ça pas trop de problème. On veut le faire ressentir à des non-voyants, donc là viennent les caractéristiques tactiles mises au point par Christian Bessignol, tout à fait. Mais vient également une dernière problématique, et peut-être l'une des plus importantes quand on fait la programmation, en tout cas dans notre domaine, mais qui n'est pas une problématique, je veux dire, numérique, qui n'est pas une problématique de logiciel, qui est une réflexion sur le papier. Et effectivement, le logiciel n'est qu'un obstacle auquel on va se confronter. Et ben, quand on commence et qu'on s'y confronte, et ben, on fait des essais, on se plante, parce que bien sûr, on s'est planté, finalement pas trop, donc c'est assez rassurant. Et puis on avance, on essaye, et ça s'est passé comme ça. Il n'y a pas eu de réflexion au-delà de quelque chose de très naturel qui s'est fait, mais parce que Laurent m'a permis de le faire également.
D'accord, merci. Juste un petit dernier point. Vous pensez donc que c'est un peu votre approche multi-domaine qui vous a permis de tirer le meilleur de cette machine, ou vous pensez que même sans cette approche-là, vous auriez réussi à la maîtriser et à l'apprivoiser comme vous le faites aujourd'hui assez rapidement?
Non, je pense qu'effectivement, ce n'est pas mon approche multi-domaine, c'est mon approche en amont de cette technique, qui est d'abord une technique manuelle, ancestrale. Puis après, effectivement, multidomaine, effectivement, parce qu'on passe par l'impression à un moment. Oui, tout à fait, mais c'est une réflexion qui n'est pas que la mienne, qui est la réflexion de l'atelier, parce que, contrairement à d'autres ateliers d'impression, l'impression étant une finalité, on a des étapes, et chaque étape est réfléchie en amont. Donc, en fait, c'est la structure qui marche comme ça, et effectivement, moi, je rentre bien dedans, parce que je fonctionne effectivement comme ça, et qu'au fur et à mesure des postes, on apprend des choses, et du coup, j'ai eu moins de problématiques, tout à fait, oui. Donc c'est effectivement passant par les différents stades de réalisation et de production.
Après, juste pour compléter, il y a aussi une réalité économique. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est dans un univers qui est en ce moment, particulièrement dans le secteur d'activité, très difficile. Il y a de la concurrence, peu importe si elle n'est pas à niveau ou quoi que ce soit, elle est là et il y a des différences de prix, etc. Il faut savoir se battre. Et la décision de cet investissement, c'est aussi garder notre longueur d'avance par rapport à la concurrence. Et ça, c'est très important aussi.
Moi, j'ai une question à vous poser. Quand vous parlez de programmation 3D, qu'est-ce que vous voulez dire exactement ?
Alors, c'est peut-être pas les bons termes. J'essaie de me défendre. Non, tout à fait, je modélise. C'est-à-dire qu'on part d'un fichier vectoriel. Ces fichiers, ce sont les fichiers qu'on envoyait anciennement à nos fournisseurs. Donc, c'est du vectoriel, le plus propre possible. Mais en ce moment, ça se passe bien, ils sont assez propres. Et après, le but du jeu étant, entre chaque vecteur, on va y intégrer un volume. Mais finalement, on est sur la même réflexion que le graveur manuel. Le graveur manuel va venir faire un tracé dans sa plaque de laiton avec son burin, donc juste en surface, et après va venir creuser ses volumes. Finalement, on travaille pareil, mais on part d'une base vectorielle qu'on va venir lever avec des volumes, et après on vient dialoguer avec le logiciel pour lui donner les contraintes qu'il va avoir à gérer. Donc en fonction des fraises qu'on va lui faire prendre, enfin que la machine va devoir prendre, et en fonction de la matière et des formes qui sont effectivement programmés, que ce soit des géométriques ou des galbes du rond de bosse. Voilà.
Bonjour, Dimitri Linka, étudiant. J'avais plutôt une petite question pour Jean-Louis Fréchin, à propos aussi des problèmes d'outils que vous aviez évoqués, c'est-à-dire le fait que, avec l'outil numérique, finalement, il y a aussi une vulgarisation. Au sein de la population, et donc aussi ça re-questionne finalement des métiers spécialisés. Mais il n'y aurait-il pas non plus un problème en termes d'innovation, je veux dire, chez l'artisan, dans le sens où ce qui fait profondément l'essence, je veux dire, de l'artisan, c'est sa proximité à la matière, cette expertise du matériau, Et finalement, avec le numérique, il y a aussi une dissociation du coup, de la conception de la fabrication et donc une distinction aussi de cette proximité. Et ça ne pose pas réellement un problème aussi en termes du coup, d'innovation. Donc par la matière, je vais pouvoir expérimenter et découvrir aussi des solutions de façon spontanée. Et n'y a-t-il pas non plus aussi un problème en termes de transmission ? Est-ce que finalement, dans les années à venir, on peut imaginer que si l'usage du numérique n'est pas mesuré au sein d'une production artisanale, finalement l'artisan qui est un ouvrier de métier devienne finalement un ouvrier spécialisé comme c'est le cas chez Hermès ou Louis Vuitton ? Donc voilà, j'avais juste...
Alors, c'est une super question. Il y a plein de questions dans vos questions. Il y en a plein. La première, j'ai pas osé le dire dans la conf, mais puisque vous me l'avez dit, je vais tartiner. Dans le film qu'on a vu au début, il y a une dame qui dit « La matière, c'est vachement bien, c'est la vérité. Le reste, c'est pas terrible. » Bon, on peut discuter de ça. La matière, c'est bien, mais les maths, c'est bien aussi. La physique, c'est bien aussi. Et le code, alors pas comme monsieur qui, en fait, modélise, mais monsieur qui programme, le code, c'est une matière, c'est un matériau. Ça, c'est la réponse numéro un. Donc, opposer... cette nouvelle matière numérique à la matière physique, il faut être extrêmement prudent. Alors, ce que vous dites en creux dans l'unification, c'est ce que je disais, ces outils pharmacon, remède ou poison, il faut faire attention. Monsieur qui programme et qui a donc une certaine forme de liberté, comme un artisan avec son bloc de marbre, il n'est pas déterminé par aucun outil. Monsieur qui utilise un outil prédéterminé, entre un de ses concurrents un peu sauvage et lui qui est un esthète, ils utilisent les deux Illustrator, je ne sais pas ce que vous utilisez, il y a un lissage. Alors, si le gars est bon, il va dépasser Illustrator, et dans les projets qu'on a vus, on voit que c'est dépassé. Mais la pression sur les prix, le fait que l'être humain ne va pas toujours vers le meilleur, que comme le dit Ricciotti, il y a pas mal de kitsch, il reste kitsch, etc., et qu'on ne va jamais vers le sens du beau et du bon, mais toujours du moins 10 ans et du... Bon, il y a un vrai danger, vous avez raison. Vous avez raison. C'est pour ça que oui, les maîtres d'art peuvent se numériser, mais je vous posais la question, ce que vous utilisez Grasshopper. Grasshopper, c'est entre Monsieur Code, vous modélisez avec des outils prédéterminés. Grasshopper, c'est un truc entre les deux qui permet d'être un peu plus libre, de générer des formes, de les programmer vraiment et d'avoir typiquement... ça aurait pu être fait avec Grasshopper, typiquement. Alors, si vous l'avez fait avec des outils plus classiques, bravo, chapeau. Mais là, on voit que vous dominez. Donc votre question, elle est importante pour ça. Et la question de l'ouvrier spécialisé, j'y répondrai de deux manières. L'atelier MacGyver de monsieur, c'est un compliment dans ma bouche, où on voit que par la collection de machines, on a la réponse de la super machine qui permet de tout faire. Fait que les ouvriers ne sont pas spécialisés. Bien sûr, les collaborateurs de monsieur doivent savoir que la Formlab, on fait ci, que la MakerBot, on fait ça, que, etc. etc. Après, c'est la liberté c'est la liberté, c'est... on est dans des trucs philosophiques, mais c'est le fait que l'homme ne soit pas inféodé à la tâche qu'on lui demande de faire qui fait qu'il est libre ou pas. Donc le patron va dire « fais toujours la même chose parce que tu es meilleur ». Mais l'artisan doit garder la vue globale de ce qu'il demande de faire. Alors, comme des gens comme vous ne faites jamais la même chose, un peu comme les designers, bon, y a cette dimension-là. Mais oui, il y a un risque, c'est un pharmacon, c'est autant un remède, un poison. Et le vrai danger, ce n'est pas tellement celui-là qui est quelque chose qui existe depuis toujours. Les peintres, quand Lumière est arrivée avec son truc, la photo, c'est vachement bien, on a entendu la même chose, etc. Le vrai danger, qui est la seule dimension nouvelle de l'ère numérique, c'est qu'il y a des gens qui ont dit que les technologies qu'on utilise doivent être ouvertes, elles ne sont plus propriétaires. Ce qu'on en fait est payant, le voyage est gratuit, l'open source. Et cette idéologie de l'open source nous dit qu'il faut donner le plus de pouvoir à tout à chacun, que tout le monde va devenir développeur, tout le monde va devenir designer. Ils ne sont pas encore attaqués aux artisans, mais je pense qu'il y avait des Allemands qui faisaient un truc qui s'appelait l'artisan numérique, où ils faisaient de la porcelaine de Limoges en automatique, etc.
Là, c'est des idéologies qui sont dangereuses. On n'est pas dans des questions réflexives, etc. Et ça, c'est le seul truc nouveau de l'histoire. Parce que photo, peinture, etc. Bon, c'est la même chose avec les machines qu'utilise monsieur. La vraie question, c'est l'ouverture et cette idéologie du numérique, parce que c'est te donner du pouvoir aux gens, ce qui est plutôt sympathique, mais avec une capacité à détruire ce qui existe. Quand les imprimantes 3D, les Fab Labs, et j'ai contribué à fortement créer les Fab Labs en France, les importer, parce que les ateliers Annecy est déjà un Fab Lab, j'ai dit, bon, les mecs, dans nos colloques et nos trucs pour faire démarrer le truc, il faudrait peut-être inviter un artisan un peu sympa du Faubourg, et puis un super maquettiste que je connais, qui est quasiment un maître d'art, Jean-Philippe Hazard, pour ne pas le nommer, qui est un mec, mais qui termine les projets des designers. Enfin, c'est incroyable. Bon. Et les mecs du numérique m'ont regardé, mais non, mais le mec, il est payé pour faire ça. Bah ouais, c'est plutôt bien quand même, parce qu'il en a fait une activité, il embauche des gens. Et ce numérique est très sympathique, qui se prétend très humaniste, est en fait ultra-libéral. Et j'ai beaucoup, moi, de réflexions personnelles là-dessus. J'ai beaucoup porté toutes ces valeurs d'ouverture, d'émancipation, d'autonomie, d'empowerment pour tout à chacun. Ils veulent tout ouvrir. Je pense que la création, elle ne peut pas être ouverte parce que c'est le choix d'un individu. On peut ouvrir un moteur de voiture parce qu'on peut l'améliorer. Le savoir-faire de monsieur ou le savoir-faire de monsieur, il est unique, il est lié à eux. Donc, on n'a pas vocation à l'ouvrir. Et ça, c'est les vraies questions du numérique. C'est la seule. Le reste... L'histoire des technologies, voilà, quand un jour on a inventé le marteau plutôt que de taper avec un silex sur un silex pour tailler la roche, bah ouais, il y a ceux qui avaient le marteau, ceux qui ne l'avaient pas, et puis ça crée des tensions, et puis c'est une histoire continue. Par contre, dire que c'est ouvert et que tout le monde doit pouvoir le faire, ça, pour le coup, ça amène plein de choses extraordinaires, l'open source, mais sur les savoir-faire individuels qui ne sont pas transmissibles directement, sans un très long apprentissage, c'est-à-dire ce qui a une vraie valeur. Là, je trouve ça vraiment... c'est pas adapté. Et on peut pas, comme ça, appliquer cette idéologie de l'ouverture à tout, y compris aux designers.
Là, il faut être un peu dans les débats numériques pour comprendre ce que je viens de dire, mais bon, je pense que monsieur compris.
Oui, bonjour, Société Lingeau-Cœur. Nous sommes brodeurs, donc artisans. Je me questionnais par rapport à la gravure et aux investissements que vous avez faits sur la machine qui, si je l'ai bien compris, en fait, ont été des investissements parce que les autres n'ont pas su vous répondre comme vous le souhaitiez. Est-ce oui. que ça vous a permis parallèlement, outre la création supplémentaire que ça vous amène à faire, est-ce que ça a permis de rentrer dans un coût de production qui était finalement moins élevé et de rentrer compétitif, enfin, de devenir compétitif?
Alors, sur le marché. On ne s'est pas encore trop penché sur le sujet. On évite un petit peu, même si on sait bien qu'il va falloir l'aborder très rapidement. C'est-à-dire que immédiatement, alors le premier élément, c'est la réactivité que l'on a nous donne une efficacité. Et donc rien que ça, et déjà, il y a une certaine forme de rentabilité immédiate. Le sujet Chaumet, par excellence, on a été les seuls à répondre. Budgétairement, je ne sais pas, mais en tout cas dans les délais. Parce que nous avions l'outil, parce que nous avions la maîtrise de la gravure et de la matérialisation sur papier. Maintenant, il est clair que quand je vous ai fait des approches de budget que l'on a pu me soumettre, par exemple pour la gravure de la sculpture de Parvin Curie, je peux vous assurer qu'entre 1680 euros et 9000 euros, il y a quand même une marge très confortable où on va trouver une certaine rentabilité, oui.
Dernière question avant de clore notre soirée. Non ? Bon. Il faut dire aussi ce qu'ont laissé transparaître aussi bien Laurent Nogue que Stéphane Bondu, c'est la notion d'atelier. Et qu'ils sont au moins une dizaine, je pense. Vous êtes combien, monsieur Bondu ? 17, oui, c'est ça. Et chez Laurent, vous êtes ouais, 20. Et dont l'existence de l'atelier, j'allais dire PME, suscite quand même... presque une cellule de recherche et de prospective intéressante. On n'est plus dans le cas de figure d'un artisan isolé qui voudraient s'équiper en 3D. On est dans une configuration un peu différente là. Voilà. Merci beaucoup aux intervenants. Merci à vous. En sortant, vous avez le programme des Journées européennes des métiers d'art. Et la prochaine conférence a lieu le 20 mai sur l'innovation. Le mercredi 20 mai ici, ça sera la dernière conférence à 18h30 sur l'innovation dans les métiers d'art. Bonne soirée.